Nous fêtons dans la joie l'Épiphanie, cette fête normalement qui a lieu le 6 janvier, mais à cause de Napoléon, qui trouvait qu'il y avait trop de fêtes chômées en France, eh bien, pour nous les Français, elle est fêtée le jour du dimanche, donc ce soir et demain. Cette fête de l'Épiphanie, je voudrais l'aborder avec en regard, en parallèle, des textes du pape Benoît XVI, donc, dont on a célébré ses funérailles cette semaine, jeudi. Et Benoît XVI a notamment à Cologne, là où il y a les reliques des rois mages, a commenté l'Épiphanie. Et je voudrais m'appuyer aussi sur son testament tout récent qui est paru après sa mort. Je le ferai en trois temps. D'abord l'Épiphanie dans la Bible, puis dans un second temps, voir comment les rois mages annoncent l'Église composée de juifs et de païens devenus chrétiens. Et enfin, une invitation pour nous à imiter les rois mages. L'Épiphanie dans la Bible. L'Épiphanie est un événement réel. C'est important parce qu'il y a eu parfois des théories qui mettaient en cause l'historicité de la Bible. Et voilà ce que dit le pape Benoît XVI, grand théologien, dans son testament. « Depuis 60 ans que j'accompagne les sciences bibliques avec la succession des différentes générations, j'ai vu s'effondrer des thèses qui semblaient inébranlables, des thèses qui étaient contre la réalité historique de la Bible. Ces thèses se révélèrent des simples hypothèses, et cite quelques auteurs. Il continue, « J'ai vu le caractère raisonnable de la foi. » Voilà, entre la foi et la raison, il n'y a pas de contradiction. « J'ai vu le caractère raisonnable de la foi qui a émergé et émerge encore. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie. » Et pour rapprocher un texte comme celui de l'Épiphanie, des évangiles de l'enfance, nous pouvons aussi nous rapporter au Concile Vatican II, au chapitre 19, sur la parole divine. La Sainte Mère Église a tenu et tient fermement avec la plus grande constance que ces quatre évangiles, dont elle affirme sans hésiter l'historicité, transmettent fidèlement ce que Jésus, le Fils de Dieu, a réellement fait et enseigné. Nous transmettent fidèlement ce que Jésus a vraiment, réellement fait et enseigné. Cette étoile mystérieuse, on pourrait mettre beaucoup d'hypothèses, mais en tout cas, nous savons que Dieu est capable de modeler la création à sa guise. Nous avons un exemple relativement récent par rapport à l'Épiphanie, c'est ce qui s'est passé au siècle dernier à Fatima, et dont nous avons des photos qui sont accessibles sur Internet, quand le soleil, une étoile, quand le soleil a dansé pour 70 000 personnes. Ce qui montre que Dieu est capable de faire des choses qui dépassent les capacités humaines. Quand le roi Hérode entend de la part des mages la naissance d'un roi en Israël, il est bouleversé et tout Jérusalem avec lui. On sait par l'historien Flavius Joseph que Hérode avait une histoire tout à fait particulière. Donc Hérode a un grand-père qui vient non pas du peuple juif mais de l'Idumée, un grand-père païen. Il a été mis sur le trône d'Israël par la volonté des Romains, et donc il n'est pas un descendant de David, et donc il n'est pas un roi légitime. Un jour, qu'il dormait dans son palais, le peuple d'Israël, de Jérusalem, est rentré en force, et il a voulu le renverser. Hérode s'est sauvé avec sa garde très rapidement, et il a rejoint une légion romaine qui campait au-delà de la mer Morte. Il est revenu reprendre le pouvoir. Et depuis ce temps, Hérode était très craintif sur un éventuel roi descendant de David. Et quand il entend de la part des rois mages qui veulent découvrir le roi des Juifs, eh bien Hérode, comme nous dit l'Évangile, est bouleversé. Pourtant, cet événement était déjà annoncé par les prophéties. Nous avons des exemples dans les lectures du jour. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Les rois de Saba, dans le psaume, les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Mais si c'est dans la Bible, comment des païens comme les rois mages pouvaient connaître l'arrivée d'un roi en Israël signifié par une étoile? Et il faut nous reporter pour cela au livre des Nombres, au chapitre 24, où un païen, Balaam, était venu maudire Israël, maudire l'armée d'Israël. Et Dieu, miraculeusement, change ses paroles et il bénit Israël. Et il dit ceci notamment, Je le vois, mais non comme présent. Je le contemple, mais non de près. » Et il dit, un astre, une étoile, sort de Jacob. Il annonce une étoile mystérieuse qui vient de Jacob. Et donc, on peut comprendre que dans le monde païen environnant de la Terre Sainte, cette tradition continue d'exister, car Balaam était très connu, et des personnes connaissant cela attendaient une étoile qui marque un roi en Israël. Sauf que ces personnes, n'ayant pas l'Ancien Testament, eh bien, ils ne savent pas dans quelle ville aller. Et c'est là justement que Hérode réunit les grands prêtres et les scribes pour savoir où devait naître le Christ, le Messie, le roi d'Israël. Ils répondirent à Bethléem en Judée. Et c'est ainsi que les rois mages s'orientent vers Bethléem et que l'étoile désigne finalement le lieu où le Christ est. Ces rois mages ne sont pas une anecdote parmi d'autres. Ils ont une très grande importance, car c'est le début des premiers païens qui viennent adorer Jésus. C'est l'annonce de l'Église, en fait, composée de juifs et de païens devenus chrétiens. Ainsi, c'est réalisé cette promesse, nous l'avons dans la seconde lecture, toutes les nations sont associées au même héritage, au même partage de la même promesse dans le Christ Jésus. Et c'est quelque chose de beau, et c'est pour nous quelque chose d'important, car c'est grâce notamment aux rois mages, les premiers païens qui vont voir le Christ, et grâce à l'ouverture de l'Église aux païens, que nous sommes maintenant chrétiens. Et l'ouverture de la foi aux nations continue constamment. Et encore maintenant, des peuples ou des parties de peuples entiers adhèrent au Seigneur. Et je vais vous donner un exemple relativement récent au nord de l'Inde. Je cite pour ça un évêque indien. Dans les années 1970, la région d'Arunachal Pradesh comptait à peine quelques dizaines de catholiques. Maintenant, il y en a presque 300 000 et deux diocèses, donc entre 70 et maintenant, presque 300 000. La raison, c'est des jeunes étudiants catholiques ont expérimenté la force de la bonne nouvelle dans leur vie personnelle et sont à l'origine de ce miracle. Le début de cette jeune église fut très douloureux. La loi anti-conversion était officiellement en vigueur, donc une interdiction de se convertir au catholicisme. Dans les années 70, les nouveaux convertis ont été arrêtés, ils ont été battus, leurs enfants ont été exclus des écoles et leurs églises, qui étaient de simples cabanes, ont été brûlées. Mais la situation évolua. Certains bourreaux finirent même par devenir des témoins de la foi catholique. Les jeunes chrétiens avaient soif de vérité sur le plan spirituel. Ils montrèrent la force qui pouvait émaner de l'étude de la Bible, particulièrement de l'étude des Actes des apôtres. Voilà un exemple, encore maintenant, relativement récent, d'une conversion importante d'une partie d'une nation. L'Inde, c'est grand, mais de passer de quelques dizaines à 300 000 en quelques dizaines d'années, c'est quand même pas banal. Dieu est à l'œuvre. Ce qu'il a commencé avec les rois mages continue. Nous-mêmes, nous sommes invités à imiter les rois mages. Nous les voyons dans cet évangile, ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Par trois fois dans cet évangile, il y a le mot « prosterner ». Et donc, bien sûr, quand l'Esprit-Saint inspire l'auteur, donc saint Matthieu, aucun des mots n'est mis par hasard. S'il y a cette insistance de prosterner, c'est pour nous dire quelque chose. Et en grec, « prosterner » veut dire aussi « adorer ». L'attitude de se mettre à genoux pour reconnaître la grandeur de Dieu. Nous savons comment Benoît XVI a aidé à réintroduire ce geste tout simple, humble et confiant, de se mettre à genoux devant Dieu. L'Église nous invite, au moment de la consécration particulièrement, à faire ce geste, bien sûr si nous le pouvons, car tout le monde ne peut pas le faire physiquement, mais à faire ce geste, car au moment de la consécration à la messe, quand le prêtre élève le corps du Christ et le sang du Christ, c'est réellement le même Jésus que dans la crèche, le même Jésus que les mages ont adoré. Et voilà ce que dit Benoît XVI à Cologne, justement en lien avec les rois mages. Chers amis, il ne s'agit pas simplement d'une histoire lointaine, survenue il y a très longtemps. Il s'agit d'une présence. Ici, dans la Sainte Hostie, Jésus est devant nous et au milieu de nous. Comme en ce temps-là, Jésus se voile mystérieusement dans un silence sacré. Et comme en ce temps-là, se dévoile précisément le vrai visage de Dieu. Il est présent, comme en ce temps-là, à Bethléem. Il nous invite au pèlerinage intérieur. Il s'appelle l'adoration. Le Seigneur Jésus Tout-Puissant qui transforme le pain et le vin, il n'y a plus de pain et de vin, qui transforme son corps et son sang, il n'en reste que les apparences du pain et du vin, sera là dans quelques instants. Faisons comme les rois mages, adorons-le, aimons-le.